Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 18 novembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et d'abord les titres du journal. Jess Wilson est la nouvelle chef du Parti libéral du Victoria. Il y a eu un changement de leader ce matin et elle a été élue sans opposition. La France et l'Ukraine annoncent une nouvelle phase de leur coopération en matière de défense suite à la confirmation par le président français de la fourniture par son pays d'importantes capacités militaires à long terme à l'Ukraine. Le gouvernement britannique a annoncé une réforme radicale de son système d'asile visant à lutter contre l'immigration clandestine. Et on passe au journal de ce mardi. Jess Wilson est la nouvelle chef du Parti libéral du Victoria. Il y a eu un changement de leader ce matin et elle a été élue sans opposition. Elle est aussi la première femme à diriger le Parti libéral du Victoria. Brad Batten, l'ancien leader, était en poste depuis moins d'un an. Hier, lundi après-midi, une délégation de députés libéraux a informé Brad Batten qu'il avait perdu le soutien de son groupe parlementaire. Et puis le Parti libéral de Nouvelle-Galles du Sud a élu Gurmesh Singh, député de Coffs Harbour, à sa tête. Cet arboriculteur de troisième génération a été élu sans opposition moins de 24 heures après la démission surprise de l'ancien présentateur Dougald Saunders pour des raisons familiales. Par le passé, Gurmesh Singh a dénoncé l'importance accordée à son héritage ethnique, se demandant combien de générations supplémentaires seraient nécessaires avant qu'il cesse d'être un Australien d'origine indienne et devienne simplement Australien. La France et l'Ukraine annoncent une nouvelle phase de leur coopération en matière de défense suite à la confirmation par le président français Emmanuel Macron de la fourniture par son pays d'importantes capacités militaires à long terme à l'Ukraine. Ces capacités comprennent jusqu'à 100 avions de chasse Rafale, des drones, des bombes guidées et de futurs systèmes de défense aérienne SAMP-T. Emmanuel Macron affirme que la Russie bloque la paix et intensifie son agression en Ukraine. Vladimir Zelensky déclare que cet accord est essentiel, l'Ukraine se préparant à un nouvel hiver sous la menace de nouvelles frappes russes. On écoute le président français.
La Russie seule, aujourd'hui, fait le choix de poursuivre cette guerre et même de l'intensifier. Je rappelle que depuis le mois de mars dernier, vous avez avec clarté redit votre disponibilité à la paix et que, suite à des initiatives américaines soutenues par les Européens et au travail important que nous avons conduit ces derniers mois, tout est prêt pour la paix. La Russie seule s'y refuse. Et l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine est une preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme.
Le gouvernement britannique a annoncé une réforme radicale de son système d'asile visant à lutter contre l'immigration clandestine. Selon ce nouveau plan, le statut de réfugié deviendra temporaire et sera réexaminé tous les 30 mois. Les réfugiés seront également tenus de retourner dans leur pays d'origine. Une fois leur sécurité assurée, ils devront également attendre 20 ans au lieu de 5 actuellement avant de pouvoir demander un titre de séjour permanent. La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmoud, a déclaré espérer que ces réformes vont dissuader les migrants de traverser la Manche depuis la France à bord de petites embarcations.
We have learned the lessons from our international partners, including Denmark, where fundamental reform to their system has seen asylum claims at a 40-year low. The impact of this government's plans will be to restore order and control to the border so we can be the open, tolerant and generous country that we know ourselves to be.
La Corée du Sud a demandé des pourparlers avec la Corée du Nord, puissance nucléaire, pour la première fois en 7 ans, afin d'apaiser les tensions militaires récentes à la frontière. Le gouvernement sud-coréen souhaite discuter de l'établissement d'un référentiel clair pour la ligne de démarcation militaire à l'intérieur de la zone démilitarisée. En Australie, à nouveau, un néo-nazi sud-africain qui a participé à un rassemblement où l'on scandait des slogans des jeunesses hitlériennes va être contraint de quitter l'Australie. Matthew Gruta faisait partie des 60 manifestants liés au réseau national socialiste qui ont protesté devant le Parlement de Nouvelle-Galles du Sud le 9 novembre dernier. Son séjour en Australie est désormais terminé, le ministre de l'Intérieur Tony Burke ayant confirmé l'annulation de son visa. Le ministre a déclaré qu'il devait quitter le pays immédiatement sous peine d'être placé en détention.
Your visa can be cancelled if you are here to incite discord. Now, at a time where too many Australians are experiencing bigotry and prejudice, I've got no intention of us being a country that gives people visas where their entire intention is to make other Australians feel unwelcome.
La dirigeante du Parti libéral, Susan Lee, a minimisé les suggestions selon lesquelles la décision de la coalition d'abandonner les objectifs de neutralité carbone pourrait nuire à la position de l'Australie dans le Pacifique. Elle a déclaré que si l'opposition se concentre sur la recherche de solutions pour réduire les prix de l'électricité, elle continuera de réduire les émissions mais ne fixera pas d'objectifs avant les élections. Alors que le gouvernement souhaite co-organiser la prochaine conférence mondiale sur le climat avec les pays de la zone Pacifique-Est, il a laissé entendre que cela pourrait nuire aux relations diplomatiques. La correspondante politique en chef de SBS News, Anna Anderson, a demandé à Madame Lee si elle reconnaissait que des politiques climatiques moins ambitieuses pourraient compromettre les liens de sécurité.
Well, I value the relationship that we have with the Pacific, but I also note that the Pacific has very good relationships with some of the world's largest emitters, including China and the US.
So you don't buy that that's something that could affect our security arrangements?
I just note that the Pacific has good relationships with two of the world's largest emitters, the US and China, and I saw Penny Wong talking about this, and I don't know why the Prime Minister is papering over the failures of his energy policy with this sort of discussion. That's not what this is about.
3 personnes ont été libérées sous caution avec de strictes conditions dans le territoire du Nord pour des accusations de fraude et de corruption portant sur 71 millions de dollars de contrats fédéraux de défense. Michael Buckley et le couple Dallas et Natalie Wynne ont comparu hier devant le tribunal local de Darwin après leur arrestation vendredi dernier. Cette comparution fait suite à une enquête conjointe menée par plusieurs agences après que le ministère de la Défense a signalé des irrégularités dans l'attribution de contrats à l'entreprise M&J Building, basée dans le territoire du Nord, et à sa filiale. La commandante de la police fédérale australienne, Naomi Binstead, a indiqué que d'autres arrestations pourraient avoir lieu.
Police allege a Commonwealth employee, his spouse, and the directors of a local company conspire to influence the awarding of defence contracts worth more than $71 million. Investigations under Operation Panton Hill are continuing and more arrests or charges are possible.
Le sommet des Nations Unies sur le climat au Brésil et une militante autochtone australienne qui assiste à l'événement a déclaré vouloir partager des témoignages sur les conséquences du changement climatique dans leur communauté. La militante pour le climat, Takessa Frank, a déclaré sur NITV Radio qu'il était important d'aller au-delà des données scientifiques.
Hopefully, I will represent both like my local environment and community and share the stories of, you know, what climate change and the impacts of climate actually look like on the ground.
Et elle a déclaré avoir consulté les aînés, les membres de la communauté pour recueillir leur avis sur le changement climatique avant d'entreprendre ce voyage afin de s'assurer que chaque voix soit entendue.
They all In support that we actually need action on climate change and really that important piece of education and knowledge. You know, we really need to make sure that everyone is educated on climate change and the importance of protecting our environment.
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rejeté l'offre de la Turquie de co-organiser le sommet de l'ONU sur le climat de l'an prochain pour la COP 31 de 2026. L'Australie et la Turquie risquent de perdre la partie qui verrait l'organisation de la prochaine conférence revenir par défaut à l'Allemagne. La chef du Parti libéral, Susan Lee, a promis que la coalition dévoilerait dans les prochaines semaines des détails supplémentaires sur sa politique de réduction de l'immigration. Ce sujet est source de vives controverses au sein du Parti libéral. Certains députés comme Jacinta Nampi-Jimpa-Price plaidant pour une réduction drastique de l'immigration. La sénatrice Price a été écartée du cabinet fantôme après une semaine de polémique concernant des propos tenus sur les migrants indiens, ce qui l'a conduite à refuser de soutenir Madame Lee à la tête du Parti libéral. Susan Lee est revenue sur la question, affirmant que la réduction de l'immigration serait une priorité sous sa direction.
We've been working very closely on migration policy in the last six months. This work has been done by Paul Scar, and more recently John O'Donoghue has joined as the Home Affairs Shadow Minister. And in the coming weeks, we will release a migration policy, the broad principles of such a policy, that demonstrates what I have said from the get-go, which is that this country's migration numbers are far too high, and this needs to be addressed as a priority.
La police du Victoria annonce avoir saisi un nombre record de couteaux et de machettes. Plus de 15 000 armes ont été retirées des rues du Victoria depuis le début de 2025, soit une moyenne de 47 par jour. C'est la deuxième année consécutive que ce record est battu. La plupart des armes ont été saisies lors de perquisitions menées auprès de délinquants connus et la police a également ciblé les membres de gangs de jeunes. Le commissaire en chef de la police du Victoria, Mike Bush, affirme que les couteaux et les machettes n'ont pas leur place dans les centres commerciaux, les arrêts d'autobus ou les gares.
And Victoria Police will continue that focus to prevent this kind of crime, and we will do that by targeting locations and by targeting the suspects that we believe are involved in these crimes. My message to offenders who want to carry weapons with the intent of harming others is that our people, our officers, will relentlessly pursue them.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 31 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 23. Hobart, 17. Canberra, 25. Sydney, 26. Brisbane, 28. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximal de 33 degrés. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi. Et bientôt 14 minutes sur les ondes de radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Christophe Mallet.
Journal des sports, on débute avec du football et la victoire de l'équipe de France dans les qualifications pour la Coupe du Monde de 2026. Victoire de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan. Un match pas si simple que cela, Antoine Grenier.
Les Bleus menaient très rapidement et contre toute attente. Quatrième minute, mouvement collectif subtil des Azerbaïdjanais. Renat Dadashov, l'attaquant du Motor Lublin en Pologne, bien servi par son latéral, vient battre Lucas Chevalier à bout portant. Le portier français dont c'était la toute première sélection et qui a payé le prix du très large remaniement entrepris par Didier Deschamps. 11 nouveaux joueurs titularisés par rapport au succès face à l'Ukraine jeudi. Et pour certains, l'occasion de se mettre en évidence lors du dernier rassemblement de 2025. Parmi eux, Jean-Philippe Mateta, auteur de l'égalité française à la 17e minute, une tête puissante à la réception d'un centre de Malo Gusto. Le latéral de Chelsea à nouveau à l'œuvre à la demi-heure de jeu avec un nouveau centre décisif, cette fois pour Marnes Akliouche, auteur de son tout premier but en bleu, tout comme Khéphren Thuram, le milieu de la Juve, qui permet à l'équipe de France de faire le break sur corner 3-1 avant la pause. Score identique au coup de sifflet final. Les Bleus terminent leurs éliminatoires invaincus avec 5 victoires et un match nul.
Antoine Garnier pour RFI. On écoute d'ailleurs Didier Deschamps, l'entraîneur national français.
J'avais dit aux joueurs il fallait faire le job ce soir, et en faisant le job le mieux possible. Bon, on a une entame qui est catastrophique, on est mené, même si c'est le mérite de l'Azerbaïdjan qui a mis beaucoup d'agressivité. Nous, on était un peu endormis. Bon, après, on a bien rectifié pour prendre 2 buts d'écart. Après, on a plus géré, mais bon, c'est bien sur ce rassemblement. Le seul qui n'a pas eu 2 minutes de temps de jeu, c'est Brice Samba. Donc, on a pu voir tout le monde et c'est toujours intéressant. Ça donne des réponses supplémentaires. En tenant compte qu'il y a beaucoup d'absents aussi, donc mais c'est bien de après notre qualification, voilà, de venir gagner. On aurait pu mettre plus de buts. On a toujours quelque chose à redire, mais c'est bien aussi de finir comme très souvent l'année civile par une victoire, un succès, et ça nous fait 16 points sur 18. Les autres, je suis pas sûr qu'ils fassent mieux, donc même s'il y a des choses forcément à améliorer, mais l'essentiel est là pour le moment.
Didier Deschamps donc, sur cette qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Un autre match très intéressant et essentiel dans ces qualifications de la Coupe du Monde, c'est celle de la République démocratique du Congo. Un très beau résultat, un match épique pour ces qualifications, Cédric de Oliveira.
Oui, un scénario épique encore après un match à couteau tiré à Rabat au Maroc, puisque Franck Onyeka avait ouvert le score à la 3e minute pour les Super Eagles avant l'égalisation de Meshack Elia, toujours en première période. Il y avait donc un partout au bout de 37 minutes, du temps réglementaire et même de la prolongation. Tout s'est joué au tir au but avec un nouveau héros national pour la RDC. Il s'appelle Timothy Fayoulou, le gardien de but qui disputait seulement son 2e match international avec les Léopards, qui est entré en jeu juste avant la séance de tir au but en remplacement de Lionel Mpassi, le portier titulaire de cette équipe congolaise. Un pari risqué mais réussi donc pour le sélectionneur Sébastien De Sabre, puisque Fayoulou a fait la différence en détournant d'abord la tentative de Moses Simon, puis celle de Ajayi, donnant la possibilité à Chancel Mbemba, le dernier tireur de la RDC, le capitaine, de donner la victoire à son pays. Le défenseur n'a pas tremblé avec un plat du pied sous la barre et bien il a envoyé la RDC vers le tour suivant, déjà buteur décisif. En toute fin de match contre le Cameroun, il a encore été déterminant. La RDC poursuit donc son rêve de disputer à nouveau une Coupe du Monde après celle de 1974 disputée quand le pays s'appelait encore le Zaïre. Les Léopards iront jouer des barrages intercontinentaux au Mexique au mois de mars avec encore beaucoup d'ambition. Leur prochain adversaire sera connu dans les prochains jours.
Cédric De Oliveira pour RFI. Allez, on fait un point sur le reste des qualifications de ce week-end pour cette Coupe du Monde, donc des États-Unis, Mexique et Canada, avec Victor Misisrano.
Après leur défaite en Irlande 2-0, les Portugais ont corrigé le tir face à l'Arménie. Victoire sur un score fleuve, 9 buts à 1. Sans Cristiano Ronaldo suspendu, Bruno Fernandes, capitaine remplaçant, a inscrit un triplé. Triplé aussi pour le milieu du Paris Saint-Germain, João Neves. Le Portugal participera donc à son 9e mondial. Le sélectionneur Roberto Martinez dresse un bilan des forces en présence et des leçons apprises pendant cette campagne de qualification.
Face à l'Arménie, on a senti le leadership de certains joueurs comme Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva. Ils ont joué un rôle très important. Le leadership ne repose pas que sur un seul joueur, mais sur plusieurs membres de l'équipe. Aujourd'hui, on a marqué 9 buts et on a eu encore plus d'occasions. On a aussi vu qu'on avait le meilleur arrière-gauche, Nuno Mendes. Il n'a pas joué beaucoup jusqu'à maintenant, comme Pedro Neto et était titulaire sur tous les matchs depuis la Ligue des Nations. Cette dernière rencontre nous a prouvé qu'on avait plusieurs options. C'est pour ça que c'est aussi important de gagner sans les titulaires habituels.
Et on En plus du Portugal, la Norvège a aussi validé sa qualification pour le mondial en allant battre l'Italie 4-1 à Milan avec un doublé d'Erling Haaland. Après avoir déjà manqué les deux dernières Coupes du Monde en échouant à ce stade, la Squadra Azzurra devra de nouveau passer par les barrages de l'UEFA.
Victor Missisrano, le tirage donc des groupes de cette Coupe du Monde aura lieu le 5 décembre. Ce sera à Washington. Les explications avec Baptiste. Le truc, il y a un petit truc en plus. Peut-être pour les Français, on l'écoute.
Il aura lieu le 5 décembre dans la capitale des États-Unis, Washington DC. Et quand on parle de tirage au sort, Romain, on pense finalement évidemment à la fameuse chance de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui ont terminé leur campagne de qualification sur une victoire 3-1 en Azerbaïdjan. Didier Deschamps espère encore une fois hériter d'un groupe clément en termes d'adversaires, mais aussi en termes de localisation. On sait déjà que les groupes C et L permettront à l'équipe tête de série d'éviter de jouer sur la caniculaire côte ouest américaine et au Mexique, avec deux matchs à Boston pour l'un et deux matchs à Toronto pour l'autre. Et ça, Didier Deschamps l'a bien noté.
Je commence à avoir l'habitude, donc voilà, ça reste un tirage au sort. Oui, quand on regarde un petit peu les groupes avec certains qui peuvent être plus intéressants de par la proximité entre les matchs, les températures aussi un peu plus clémentes. Une partie de mon staff ira déjà en repérage la semaine prochaine et puis on fera en sorte de valider notre camp de base. Il y a deux groupes qui paraissent mieux pour différentes raisons, sans savoir les adversaires, mais de par les distances plus courtes, et puis aussi la possibilité d'avoir des températures qui soient un peu plus clémentes.
Verdict donc le 5 décembre prochain.
Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
h 25 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Comme chaque mardi maintenant, c'est l'heure du journal de la semaine politique.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Allez, c'est l'heure de notre rubrique politique en ce mardi, comme chaque semaine avec Patricia Meunier. Et l'Australie a conclu un traité de sécurité historique avec l'Indonésie. L'accord inattendu permettra aux deux pays d'approfondir leur coopération en matière de défense et d'envisager une riposte militaire conjointe en cas d'attaque.
Une nouvelle ère semble s'ouvrir dans la relation entre l'Australie et l'Indonésie. Les deux pays ont conclu un traité de sécurité historique qui va débuter en 2026. On écoute le Premier ministre australien Anthony Albanese.
This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. This is a watershed moment in the Australia-Indonesia relationship. This treaty represents a major extension of our existing security and defence cooperation.
Le président indonésien Prabowo Subianto a partagé l'opinion de son confrère.
We cannot choose our neighbours. Especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in a good neighbor policy. Good neighbors are essential good neighbors will help each other in times of difficulties. And in the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us.
Le nouveau traité s'appuie sur l'accord de sécurité historique signé il y a 30 ans par les gouvernements Keating et Suharto, ainsi que sur le traité de Lombok de 2006. Ce dernier portait sur les menaces particulières comme le terrorisme. En revanche, le nouveau pacte ajoute une nouveauté. En cas de danger, les deux pays vont se consulter et prévoir des mesures conjointes si la sécurité de l'un ou de l'autre est menacée. Il s'agit donc d'un grand pas en avant entre les deux nations. Ces alliances soulèvent une certaine controverse. Par exemple, le nouveau traité pourrait faire de l'Australie un allié militaire indirect de l'Indonésie dans son conflit avec la Papouasie occidentale. Pour mémoire, l'Indonésie maintient une forte présence militaire et est aussi accusée de violation des droits de l'homme. Une inquiétude que le professeur de politique internationale, Damien Kingsbury, partage. D'autant plus que le nombre de militaires au sein du gouvernement indonésien est assez élevé.
It does raise issues around the type of agreement that's been reached and the nature of the Indonesian military itself, which has historically a very poor human rights record.
Plus généralement, le nouveau traité s'inscrit dans la continuité de la coopération entre l'Australie et l'Indonésie, qui effectuent des exercices militaires communs depuis longtemps.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Vous écoutez le programme en français. Et maintenant, on part à la découverte du Vendémiaire, une frégate française essentielle à la surveillance des eaux du Pacifique. Et je passe l'antenne à notre collègue Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Alors on est sur le Vendémiaire, juste en dehors de Melbourne, à Port Melbourne, et je suis avec le commandant Guillaume, qui est le commandant d'un navire qu'on connaît en fait finalement pas mal en Australie, puisqu'il est passé plusieurs fois, c'est le Vendémiaire. Bonjour et merci déjà de nous recevoir à l'intérieur de ce navire.
Bonjour, on est très ravis d'être à Melbourne en Australie.
Alors bon, c'est un beau pays l'Australie, mais vous venez d'un beau pays également, la Nouvelle-Calédonie, pays voisin, région voisine de l'Australie. Le Vendémiaire, je l'ai dit, il est passé plusieurs fois par les côtes australiennes. Bon, il n'y a pas que l'Australie, il y a tout le Pacifique pour le Vendémiaire. Expliquez-nous un petit peu en détail le rôle d'un bateau, d'une frégate comme le Vendémiaire.
Le Vendémiaire, c'est un bateau d'une série de 6 bateaux qui sont des frégates de surveillance et qui ont été construits dans les années 90 pour servir dans les Outre-mer. Donc il y a une frégate comme ça à Nouméa, qui est le Vendémiaire, mais il y en a aussi à Tahiti, il y en a à La Réunion, il y en a en Martinique également. Et donc elles portent bien leur nom, ces frégates, elles surveillent, elles protègent le territoire national, les intérêts français. Et donc en mer, qu'est-ce qu'on surveille ? Eh bien en mer, l'important c'est d'empêcher les éventuels brigands de se livrer à leur brigandage. Et en l'occurrence, par exemple, on doit protéger les ressources halieutiques. Ce qu'on veut avec tous les pays de la région, en coopération avec eux, c'est permettre que les pêches soient durables. Et donc on contrôle, on surveille, on contrôle les pêcheurs pour vérifier qu'ils ont le droit de pêcher, qu'ils pêchent les bonnes espèces dans des quantités raisonnables et autorisées. Voilà. Et puis également, on s'entraîne avec les nations voisines, les marines voisines, parce qu'on veut participer à la stabilité régionale. Et donc il y a un certain nombre d'exercices toute l'année auxquels on participe. Parfois en Australie, parfois en Papouasie, parfois au Timor, que sais-je. Et ça nous permet d'être toujours plus à l'aise pour travailler ensemble, par exemple à la suite d'une catastrophe naturelle, parce que les frégates de surveillance participent beaucoup à l'aide aux populations après le passage, typiquement ici, d'un cyclone. Voilà. L'année dernière, au mois de décembre, il y a eu un cyclone qui a touché le Vanuatu, et donc les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont apporté leur assistance, et c'est typiquement le rôle d'une frégate de surveillance que d'aller avec son hélicoptère et un certain nombre de capacités médicales ou logistiques apporter leur aide, leur appui aux populations.
Quand vous parlez de la pêche, on sait que dans la région, il y a des pays et des régions un peu plus agressives que d'autres en termes de pêche. C'est un vrai problème dans le Pacifique. C'est un vrai problème pour les ressources naturelles. C'est un vrai problème pour certains peuples. Parce que c'est une agression totale pour certains petits peuples. C'est une agression dans ce qui va dans leur assiette au final.
Oui, il y va de leur vie, c'est vrai. Et c'est un travail de long terme dans lequel on s'inscrit, parce que le renouvellement des populations halieutiques, la pêche durable, c'est pas un sujet de 6 mois ou d'une année. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Donc c'est pour ça que il y a plusieurs organisations concernant la pêche dans le Pacifique auxquelles la France est partie ou pas. Et quand elle ne l'est pas, elle quand même, elle apporte son aide. Par l'intermédiaire de ses avions, de ses bateaux, parce qu'il y a plusieurs bateaux, hein, à la fois à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, pour aller contrôler. Alors, outre notre ZEE, zone économique exclusive française, il y a les zones de haute mer, qui appartiennent à tout le monde, et puis il y a aussi les ZEE, les zones économiques exclusives des pays voisins, qui n'ont pas toujours beaucoup de moyens, et qui sont contents d'avoir l'appui de la France pour justement aller naviguer dans leurs eaux et contrôler les pêcheurs s'ils le souhaitent. Voilà. Et puis la France s'appuie aussi sur des moyens satellitaires qui nous aident, parce que le Pacifique, c'est gigantesque. Et pour une petite frégate comme la nôtre, même si un hélicoptère qui permet de voir loin ne peut pas évidemment couvrir l'étendue de la zone. Donc on s'appuie aussi sur des moyens satellites qui sont très efficaces.
Alors il y avait un slogan en France, un petit mais costaud. Ça peut être ça aussi pour la frégate, parce qu'il y a plus de 80 personnes sur ce bateau. C'est pas un petit navire, c'est quand même assez grand comme navire.
Alors, small is beautiful. Voilà. c'est une petite frégate, mais c'est une frégate qui sait faire plein de choses. Et avec effectivement une centaine de marins de tout âge et de toute spécialité. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est multi-purpose. On peut faire plein de choses avec. L'un des systèmes d'armes les plus importants, système d'armes, c'est-à-dire nos capacités, c'est l'hélicoptère qui permet à la fois de faire du search and rescue, donc d'aller aider, récupérer quelqu'un qui serait tombé à l'eau d'un voilier ou que sais-je, comme aller voir sur l'avant justement s'il n'y a pas des brigands en train de trafiquer ou en train de pêcher de façon illégale, voilà, de nous aider à voir plus loin. Ce que nos systèmes de détection ne peuvent pas voir, ce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà d'une certaine distance.
Le rôle avec l'Australie, parce qu'aujourd'hui vous êtes à Melbourne, c'est absolument pas la première fois. Moi j'étais sur ce bateau il y a une quinzaine d'années avec notre chère ancienne consul honoraire Myriam, qui avait été reçue son titre de consul honoraire ici même, c'était une quinzaine d'années. Donc ça fait un moment que le bateau navigue, et ça fait un moment que ce bateau vient en Australie, ici à Perth, à Sydney. Somme toute, ce bateau connaît bien l'Australie, mais la relation entre la marine nationale française et la marine nationale australienne, elle est primordiale, je suppose. Elle consiste en quoi ?
Oui, alors, ça fait longtemps que le Vendémiaire n'est pas venu à Melbourne.
Ça fait 15 ans, non ?
Parce que oui, c'est ça. Parce que Melbourne, eh bien, il n'y a pas de marine à Melbourne. Et qu'on est content quand on va dans un pays de s'entraîner avec la marine. Il n'y a pas beaucoup de bateaux de la marine, de la RAN, de la Royal Australian Navy. Donc c'est vrai qu'on fait plutôt escale plus à l'est ou plus au nord. Mais dès qu'on peut, on s'entraîne. Et pour cette mission où nous sommes partis directement de Nouméa pour Melbourne, nous nous sommes entraînés avec un patrouilleur, le HMAS Bathurst, pendant 2 jours, à faire tout un tas d'exercices, aussi bien de la visite, c'est-à-dire envoyer un Zodiac avec une équipe pour aller visiter typiquement un bateau de pêche qu'on devrait contrôler, ou un bateau suspecté de trafic de drogue. Et donc ça, toutes les marines du monde s'entraînent à ça. Et là, on a pu, avec le Bathurst, s'entraîner en croisée. On a envoyé notre équipe de visite sur le Bathurst, et le Bathurst a envoyé son équipe de visite chez nous. On a fait du tir ensemble, et puis de la navigation tactique. Voilà. Donc dès qu'on peut, on s'entraîne. Là, c'était le Bathurst, mais il y a encore 6 mois, nous étions au large de Gladstone, sur la côte est, pour le gros exercice amphibie Talisman Sabre, où nous avons participé avec des dizaines de bateaux australiens comme de toute la région, sous-marins, avions, hélicoptères, dans un thème plus amphibie, plus, je dirais, plus de combat naval, qui était absolument passionnant. Et puis quelques mois encore auparavant, nous avons travaillé du côté de Darwin avec le HMAS Hobart. Donc nous passons beaucoup de temps à travailler avec la RAN, qui est une grande marine, et nous sommes très heureux de pouvoir partager des exercices avec une grande marine.
peut aussi noter votre niveau d'anglais. Hein. L'accent est parfait.
Merci beaucoup.
Une question, ce bateau a été construit en 1993 à Saint-Nazaire, les fameux chantiers navals à Saint-Nazaire. 93, c'est vieux, c'est jeune pour un bateau. On ne sait pas trop, parce que c'est vrai qu'un avion, on se dit, on compte en heures de vol. Est-ce que pour une frégate comme ça, on compte en heures de navigation? Est-ce que c'est un âge où il est ce bateau? Où il se situe dans la charte des âges des navires en France?
Alors, le Vendémiaire, c'est une vieille dame. Une vieille dame que nous honorons et que nous entretenons. Mais oui, un bateau, c'est fait pour vivre 25-30 ans. Au-delà, comme une automobile, ça coûte cher à rénover, à restaurer, à entretenir. Et donc, on renouvelle une flotte généralement pas plus tard qu'au bout de 30 ans. Bon, il se trouve que la marine française a déjà renouvelé une très grande partie de sa flotte et que les frégates de surveillance sont un peu les dernières de la liste. Mais ça va arriver dans quelques années. Et d'ici là, on l'entretient et on arrive encore à faire de grandes choses avec.
Ça n'a pas l'air d'avoir 30 ans, en fait. Quand une voiture de cet âge-là, c'est beaucoup plus vieux. Qu'est-ce qu'on peut penser? Enfin, quel est l'avenir, justement, d'une frégate comme le Vendémiaire? Il y a encore 5 ans, 10 ans, on pense à quel ordre d'âge pour un navire comme ça?
Vraisemblablement, son successeur ne sera pas construit avant le début des années 2030. Voilà. Après, vous savez, la programmation, c'est quelque chose qui évolue. Donc, je peux vous dire une date tout de suite. Elle changera peut-être dans 2 semaines ou dans 6 mois. Mais voilà, on n'aura sans doute pas de remplaçant avant les années 2030. Et ce sera sans doute un bâtiment à peu près de la même taille et sans doute beaucoup plus performant parce que la technologie a énormément évolué.
Quand vous êtes avec vos collègues australiens, vos confrères australiens plutôt, vous parlez des sous-marins ou pas? Parce que c'est quelque chose ici, on en a beaucoup parlé. Ou est-ce que c'est un sujet, c'est fini, on n'en parle plus, on a mis ça à gauche, le dossier il est rangé sur l'étagère et on passe à autre chose?
Vous savez, nous sommes pas là pour faire de la politique, mais évidemment, on en rigole et c'est toujours un bon icebreaker de parler de sous-marins avec nos camarades australiens.
Allez, j'ai une dernière question. Je sais que quand moi j'ai visité le bateau, c'est important aussi pour le staff, enfin l'équipage en français, de pouvoir profiter aussi de la ville. Est-ce qu'on a eu le temps, est-ce que vous avez eu le temps aussi de profiter d'une ville comme Melbourne? Je crois qu'une petite souris m'a dit, certains sont allés voir un grand groupe de rock légendaire AC/DC, et ça c'était plutôt opportun en fait que ça se passe en même temps que vous soyez là.
Alors ça c'est extraordinaire, c'est quelque chose qu'on a vu arriver depuis quelques mois pour une bonne partie de l'équipage, donc ils étaient tous effectivement très heureux de venir à Melbourne à ce moment-là pour écouter. J'ai appris récemment qu'ici on dit Akadaka. Ouais. Et alors c'est quand même une grande escale pour la représentation qui fait partie de nos missions. La diplomatie aussi navale, la diplomatie c'est quelque chose d'important. Et comme en plus on n'est pas venu à Melbourne depuis longtemps, et puis que c'était les événements du 11 novembre que nous célébrions, nous avons participé à plusieurs cérémonies. Nous avons reçu à bord plusieurs fois des classes qui venaient visiter, des enfants qui venaient visiter, et puis la population locale. Hier soir, Madame le Consul Général a aussi pu inviter un certain nombre de personnes de la communauté française et puis des représentants ici du gouvernement. Donc ça nous a aussi beaucoup occupés, mais je suis sûr que tous les marins du Vendémiaire ont aussi pu profiter, découvrir la ville de Melbourne et les environs.
Allez, je vais vous dire bon vent parce que vous êtes sur le départ, encore un peu dans le Pacifique avant un retour vers votre bel ancrage en Nouvelle-Calédonie.
Eh bien, merci beaucoup et je crois qu'on dit fair wind and following seas.
Merci.
Merci.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et en fin d'émission, on passe à un rappel des titres du journal de ce mardi. Jess Wilson est la nouvelle chef du Parti libéral du Victoria. Il y a eu un changement de leader ce matin et elle a été élue sans opposition. La France et l'Ukraine annoncent une nouvelle phase de leur coopération en matière de défense suite à la confirmation par le président français Emmanuel Macron de la fourniture par son pays d'importantes capacités militaires à long terme à l'Ukraine. Et puis le gouvernement britannique a annoncé une réforme radicale de son système d'asile visant à lutter contre l'immigration clandestine. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi télécharger l'application SBS Audio et vous abonner à SBS French. Vous pouvez également écouter le contenu audio de SBS French à tout moment via YouTube, Apple Podcasts, Spotify et bien d'autres plateformes. Bel après-midi, à bientôt. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.